Chronique Histoire avec Bernard Lescaze, spécialiste de l'histoire culturelle et politique genevoise.
Bonjour. Nous avons vu la dernière fois que la vie de John Ninet, le fellah suisse, qui était en Égypte depuis 1839, prend un autre tour avec l'arrivée de Ferdinand de Lesseps, ami des khédives de l'époque, qui décide de construire le canal de Suez. Il y faut de nombreux ouvriers et John Ninet s'étonne déjà des conditions désastreuses que la compagnie du canal de Suez fait aux malheureux fellahs contraints de creuser le canal. Mais lui, qui est un commerçant, un négociant, s'inquiète encore plus des conditions financières draconiennes que les puissances européennes mettent au financement du canal et du train de vie dispendieux des successeurs de Mehemet Ali, qui à sa mort n'avait pas laissé un centime de dette à l'Égypte. Ses successeurs empruntent sans compter. Et finalement, après l'ouverture du canal de Suez en 1869, il faut installer en Égypte une sorte de commission financière qui contrôlera les douanes et les revenus de l'Égypte, afin que plus de la moitié des ressources du pays passent au paiement de la dette. De même, le Khédive est obligé d'acheter plus de la moitié des 400 000 actions de la compagnie de Suez. Certes, la France en a pris une bonne moitié, mais en revanche, la Grande-Bretagne a refusé d'acheter 85 000 actions. Et l'Égypte, qui en avait 64 000 plus la part de la Turquie, se trouve avec près de 180 000 actions, mais une énorme dette. Et c'est là le coup de maître de Disraeli, le premier ministre de Grande-Bretagne, qui 6 ans après l'ouverture du canal et pour assurer la maîtrise de l'Angleterre sur la route des Indes, achète en 10 jours les actions du Khédive pour le compte du gouvernement anglais. Désormais, à partir de 1875, l'Angleterre joue un rôle essentiel en Égypte. C'est le moment où des officiers de l'armée égyptienne créent une sorte de parti national, c'est-à-dire un siècle avant Nasser, un parti qui trouve que l'Égypte doit résister non seulement à la Turquie, mais surtout aux puissances européennes qui tentent de la servir. Comme toujours, il y a des gens, des héros et des gens plus sombres. À la tête de l'Égypte se trouve alors un certain Noubar Pacha qui n'est pas égyptien, pas turc, arménien et qui n'a donc aucun sentiment de solidarité avec les Égyptiens. Il est l'homme des Anglais. Contre lui se dressent notamment les jeunes officiers et un certain Ourabi, qui s'appelle, dans les manuels d'histoire occidentaux, Arabi Pacha. Finalement, les années 78 à 81 sont troublées et Noubar Pacha est éjecté provisoirement du pouvoir. Arabi devient Arabi Pacha, ministre de la guerre, et les jeunes officiers vont tenir le pouvoir en Égypte pendant 2 ans, entre 1879 et 1881. Inutile de dire que même si le gouvernement libéral anglais de Gladstone, qui a succédé à Disraeli, se veut ouvert et démocrate, il n'en considère pas moins l'Égypte comme un pays qui doit être vassal et les Égyptiens comme une race inférieure. Finalement, à la suite d'une émeute contre les Européens à Alexandrie en 1882, l'Angleterre bombarde Alexandrie et débarque ses troupes qui, finalement, défont au bout de 2 mois celle d'Arabi Pacha, lequel est arrêté. Mais me direz-vous, quel est le rôle de Ninet dans toute cette aventure? Nous verrons la suite et la fin de l'aventure de John Ninet en Égypte dans une prochaine chronique.